Un journal présenté ce soir par Aurélie Guiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le conseil d'administration d'Engie se prononce ce soir sur l'offre de Veolia qui veut racheter ses parts de Suez, analyse dans un instant d'Anne-Laure Chouin. Paris, Lyon, Lille et Grenoble pourraient être bientôt soumises à de nouvelles restrictions pour raisons sanitaires. Actuellement, un tiers des foyers de contamination sont détectés en milieu scolaire et universitaire. Les soirées étudiantes sont pointées du doigt. La Commission européenne épingle la Hongrie et la Pologne pour leurs atteintes à l'indépendance de la justice. Angélique Bouin nous résumera ce premier rapport sur le respect de l'état de droit dans les 27 pays de l'Union. Et puis Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda, va être remis à la justice internationale. Il avait été arrêté en France en mai après 25 ans de cavale. Engie joue aujourd'hui les arbitres dans la guerre qui oppose les deux géants français de l'eau. Le groupe énergétique détient 32% des parts de Suez et Veolia lui a proposé de racheter la quasi-totalité de ses parts, une étape indispensable pour pouvoir absorber son concurrent. Suez entend conserver son indépendance et voudrait dissuader Engie, mais sans être en mesure de proposer tout de suite un projet alternatif. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir.
Engie a jusqu'à minuit pour accepter ou refuser l'offre de Veolia qui vient d'être révisée à la hausse.
Oui, Engie qui fera savoir à l'issue d'un conseil d'administration qui se tient en ce moment si elle accepte de vendre à Veolia sa participation dans Suez, Engie dont l'État est actionnaire, on le rappelle. Si l'offre de Veolia est acceptée, cela ouvre la voie à une acquisition amicale, de Suez par son concurrent. Sinon, la guerre de l'eau pourrait durer encore. Cette offre, vous l'avez dit, a été revue à la hausse. Veolia offre désormais 18 euros par action Engie contre 15,50 euros précédemment, ce qui fait passer son opération de rachat de 2,9 à 3,4 milliards d'euros. Un renchérissement qui n'a pas fait passer la pilule. Le conseil d'administration de Suez s'est exprimé ce matin en défaveur de l'opération, estimant que les conditions restaient floues. Si Engie l'accepte tout de même, alors Veolia promet qu'elle donnera 6 mois à Suez pour que les deux groupes étudient ensemble les conditions d'un rachat pacifique. C'est tout ce que demande Bercy, deuxième arbitre dans l'histoire, qui estime qu'un rapprochement entre les deux concurrents serait une bonne idée stratégique, mais pas à n'importe quelle condition. Reste que ce rapprochement, s'il a lieu, inquiète beaucoup d'autres acteurs. Les salariés de Suez, qui craignent, avec leur direction, une fois n'est pas coutume, des suppressions d'emplois, mais aussi des élus locaux et nationaux, qui estiment qu'un acteur monopolistique privé dans le domaine de la gestion de l'eau et des déchets, ça n'est pas une bonne idée. Même si, pour amadouer l'autorité de la concurrence, Veolia a prévu le coup, notamment de faire reprendre la filiale de Suez dédiée à l'eau par un troisième acteur, le fonds d'investissement Meridiam. C'était sans compter sur un dernier mouvement tenté par Suez qui a mis à l'abri cette filiale dans une fondation de droit néerlandais. À cette heure, en tout cas, ce sont les administrateurs d'Engie qui ont les cartes entre les mains.
Anne-Laure Chouin. À Bordeaux, le tribunal administratif a débouté des syndicats de salles de sport et de fitness mobilisés contre les fermetures imposées pour raisons sanitaires. Le recours déposé par des restaurateurs de la région PACA contre la fermeture des bars et restaurants est lui aussi rejeté. L'UMI, syndicat patronal des métiers de l'hôtellerie, ne veut pas s'arrêter là et compte saisir le Conseil d'État. Et le syndicat appelle à une mobilisation au niveau national, demandant à tous les chefs d'entreprise et à leurs salariés de faire du bruit devant leur établissement vendredi à la mi-journée. C'est pour éviter ce type de réaction que Jean Castex recevra demain matin les maires et présidents de métropole de Paris, Lyon, Lille et Grenoble. Le Premier ministre veut discuter avec eux d'éventuelles adaptations des mesures de restriction. En Ile-de-France, plus de 32% des lits de réanimation sont occupés par des patients atteints de Covid-19, ce qui fait redouter la mise en place de nouvelles mesures sanitaires. La ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à le préciser. Pour le moment, une fermeture générale des universités n'est pas à l'ordre du jour. Mais selon les derniers chiffres de Santé publique France, un tiers des foyers de contamination sont actuellement détectés en milieu scolaire et universitaire. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
À l'origine de ces clusters, il y a souvent des soirées étudiantes.
Oui, avec la hausse des contaminations dans les universités, les étudiants et les enseignants sont inquiets. En effet, au-delà des soirées étudiantes qui ont généré les premiers cas de contamination, comme à Nantes par exemple ou à Rennes, ce sont désormais les conditions pour étudier qui deviennent préoccupantes, avec des amphis bondés en licence, comme par exemple à la Sorbonne à Paris ou à Rue Diderot, mais aussi à Lille ou Marseille, où le protocole sanitaire qui impose au moins un siège d'écart entre chaque élève n'est pas toujours respecté, une situation qui s'explique par un manque d'anticipation, selon Anne Roger, co-secrétaire nationale du SNESUP, principal syndicat des enseignants-chercheurs.
On a des collègues qui n'ont pas d'ordinateur personnel, on a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur personnel, on a des universités dans lesquelles les connexions Wi-Fi sont pas stables et dans lesquelles, dès lors qu'on dépasse un certain nombre de connexions, ça ne fonctionne plus, etc., etc. Donc on n'est absolument pas prêt à mettre en œuvre quelque chose qui serait efficace et qui ne se ferait pas au détriment de la qualité de la formation.
De son côté, Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, dénonce, elle, le manque de moyens humains pour assurer le dédoublement des classes, notamment pour assurer des cours en présentiel.
La solution, c'est d'embaucher tous les contractuels qui aujourd'hui travaillent dans l'enseignement supérieur. Il faut les titulariser et permettre de dédoubler les classes. Et ça, ça va nous permettre de pouvoir étaler les cours au fur et à mesure. Là, maintenant, en fait, on n'est pas obligé de faire du distanciel partout. On peut trouver des solutions pour faire des cours en présentiel et qui sont plus respectueux des conditions sanitaires.
En attendant, si les grandes écoles comme HEC ou par exemple Sciences Po ont déjà fermé leurs portes en assurant désormais 100% de leurs cours en distanciel, cela est beaucoup plus compliqué pour les universités qui ont beaucoup plus d'étudiants, 25 000 parfois, et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens humains.
Hakim Kasmi. La crise sanitaire a entraîné une explosion des demandes d'aide alimentaire. Pendant le confinement, 45% des personnes qui ont sollicité le Secours Populaire étaient des nouveaux venus. Beaucoup n'avaient jamais demandé d'aide à personne, note l'association dans le baromètre qu'elle publie aujourd'hui. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Les associations comme le Secours Populaire proposent une aide alimentaire gratuite et inconditionnelle. Mais depuis quelques années, des collectifs militants et des chercheurs réfléchissent à une autre manière de répondre à ces difficultés. Ils suggèrent la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Bien, l'idée, c'est en résumé que tout le monde ait un accès garanti à une alimentation choisie. C'est donc une approche qui consiste à penser ensemble le droit de tous à une alimentation, mais aussi les transformations de la production agricole et les droits des paysans, explique Mathieu Dalmet, agronome et membre d'Ingénieurs sans frontières.
C'est à la fois pouvoir choisir dans le rayon les produits qu'on veut et aussi pouvoir décider de qu'est-ce qui va être produit et qu'est-ce qui va arriver dans le rayon. Et donc, c'est d'assurer l'accès monétaire et géographique de tout le monde à l'alimentation. Et à côté de ça, s'assurer que la production agricole et la production alimentaire, donc à la fois l'agriculture mais aussi toute l'industrie agroalimentaire, dans les critères de ce qu'ils vont produire et des standards de qualité et autres, correspondent à ce que les gens ont envie de manger.
Alors depuis 2017, agriculteurs, agronomes et syndicats travaillent aux manières de reconnaître un droit à l'alimentation pour tous. Un certain nombre de chercheurs aussi travaillent autour de ces questions de démocratie alimentaire, notamment sous l'égide de l'INRAE à Montpellier, avec l'idée de proposer une alternative aux logiques d'assistance aux plus pauvres, celles des associations de solidarité, et au système de l'aide alimentaire qui repose lui sur les surplus de l'industrie agroalimentaire. Dominique Paturel est chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Tout le monde trouve à peu près normal que puisque les gens ont faim, on leur donne les surplus des circuits agro-industriels. Ça pose problème à personne de voir ça comme ça. Ça pose tellement pas problème à personne qu'on pense qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres, quoi. On se dit, oh là là, il y a 6, 7, 8 millions de personnes, donc il faut qu'on augmente le dispositif d'aide alimentaire, qu'on le modernise. C'est le projet évidemment des grosses associations de lutte contre la pauvreté. Et la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est justement de sortir de cette idée de population qu'on cible. Donc les pauvres, les enfants pauvres, les personnes âgées pauvres, c'est de sortir de ce type de modèle et d'être sur un dispositif universel.
Et donc très concrètement, Catherine, quelle forme est-ce que cela pourrait prendre ?
Eh bien, les promoteurs de ce système proposent que chaque citoyen dispose d'une carte. Ils comparent cela avec la carte vitale, créditée de 150 euros par mois et par personne, une somme qui permettrait d'acheter des produits alimentaires conventionnés, explique Mathieu Dalmet.
Pour décider de quels seront les produits et où ils seront disponibles, l'idée c'est que s'organisent des caisses de sécurité sociale de l'alimentation et que dans ces caisses, des citoyens élus ou tirés au sort s'occupent de conventionner les produits qui seront accessibles par ce système et les lieux de distribution qui seront rendus possibles. Et dans les critères de conventionnement qui seraient imposés à échelle nationale, on a le fait de ne pas pouvoir conventionner en dessous du prix de revient d'un produit et son contraire de dire on ne conventionnerait pas des produits qui génèrent du profit pour les entreprises.
Un tel système représenterait un budget de 120 milliards d'euros par an, soit la moitié de l'ensemble de la consommation alimentaire. Alors, sous des formes diverses, l'idée commence aussi à faire son chemin auprès des politiques. Au printemps, c'est le député socialiste Guillaume Garot, président du Conseil national de l'alimentation, qui appelait à une couverture alimentaire universelle qui permettrait de reconnaître la faim comme un risque social. Quant au groupe d'opposition Écologie, Démocratie et Solidarité, composé notamment d'anciens députés En Marche, il pourrait aussi proposer un amendement sur ce thème dans le cadre du nouveau projet de loi de finances.
Catherine Pétillon. Même s'il a beaucoup à gérer, le gouvernement n'a pas oublié ses engagements pour rendre la France plus verte. C'est le message qu'il veut faire passer, notamment à travers la réunion organisée ce matin à Matignon avec une vingtaine de citoyens ayant participé à la Convention citoyenne pour le climat. Sur les 149 propositions soumises à l'Élysée il y a 3 mois, Rosalie Lafarge, une trentaine sont presque actées et les autres sont sur la table. Bref, l'exécutif promet qu'il ne va pas en rester là.
On avance, c'est ça le message de l'exécutif. Des propositions se concrétisent déjà, d'autres suivront, défend le gouvernement. Et à ceux qui l'accusent de détricoter le travail citoyen, voilà ce que répond Barbara Pompili.
Oui, j'ai entendu ça. Alors moi, j'adore le tricot. Et justement, ce qu'on est en train de faire, c'est de tricoter un beau pull vert que vous pourrez mettre à Noël, par exemple.
Et si les citoyens semblent plutôt satisfaits de l'investissement de la ministre de la Transition écologique, ils s'inquiètent du reste de l'équipe gouvernementale. Grégoire Frati et Muriel Pivard président l'association des 150 fondée à l'issue de la convention.
C'est une période qui est compliquée pour nous. On sent que nos mesures peuvent faire polémique et qu'il n'y a pas forcément une ligne gouvernementale qui se dégage.
Madame Pompili est quelqu'un qui s'investit vraiment. Toutefois, je suis et nous sommes plusieurs citoyens de la Convention citoyenne pour le climat à espérer qu'elle ait un peu plus de soutien de la part de ses collègues au gouvernement. Elle a beaucoup de motivation, mais elle n'y arrivera pas seule.
Les dernières déclarations du président sur la 5G de plusieurs ministres contre le malus pour les voitures neuves ou l'écotaxe sur l'aérien les ont un peu refroidis, ces citoyens. Le ministre chargé de la participation citoyenne, Marc Fesneau, tente de les rassurer.
Qu'il y ait des débats, qu'il y ait des discussions, c'est quand même, on est en démocratie, ça me paraît pas malsain qu'il y ait des débats et des discussions. Mais l'intention qui est la nôtre, c'est bien d'aboutir.
Les ministres rappellent qu'à la fin, c'est le premier d'entre eux, Jean Castex, qui tranchera, sous-entendu, pas les autres. Et donc pas ceux qui s'opposent ouvertement à telle ou telle mesure proposée par les citoyens.
C'est un avertissement que la Cour des comptes adresse au ministère de la Culture. Les dons pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris doivent aller intégralement au chantier de restauration. Un appel à la rigueur pour se montrer à la hauteur de l'élan de générosité suscité par l'incendie de la cathédrale, Anne Lamotte.
825 millions d'euros de dons ou de promesses de dons pour Notre-Dame. 825 millions. L'élan de générosité est unique, note Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui publie son premier bilan sur le chantier de la cathédrale. Cela représente près de 340 000 dons. Imaginez, compare Pierre Moscovici, c'est comme si tous les habitants de la ville de Nice avaient participé. Des particuliers, mais surtout des entreprises de quelque 140 pays différents. 16% des dons viennent de l'étranger. Bref, c'est sans précédent, insiste-t-il. Et il estime que ces donateurs, ces mécènes qui offrent parfois des sommes considérables, ont le droit de savoir à quoi sert leur argent. Il doit servir, vous l'avez dit, exclusivement à la restauration de l'édifice. C'est écrit noir sur blanc dans la loi de juillet 2019. Or, sur ces 825 millions, la Cour des comptes relève que 5 sont utilisés pour autre chose, pour le fonctionnement de l'établissement public qui supervise le chantier. Cet établissement compte 39 salariés. Il est installé dans le 7e arrondissement de Paris, près de 480 mètres carrés, dans un bâtiment propriété de l'État. Et on apprend donc que pour fonctionner, pour payer notamment ses salariés et le loyer, cet établissement public se sert des dons à hauteur de 5 millions d'euros par an. Alors, est-ce outrageant ? Non, répond Pierre Moscovici, il n'y a pas scandale, mais une anomalie de gestion. Il faut, conclut-il, que cet établissement public soit financé par de l'agent public, en l'occurrence par une subvention annuelle sur les crédits budgétaires du ministère de la Culture.
Anne Lamotte, la Cour d'appel de Paris donne raison aux héritiers de René Guimpel, ce marchand d'art juif spolié pendant l'occupation. L'État est condamné à leur restituer 3 toiles d'André Derain conservées par des musées. Je vous invite à écouter à ce sujet le grand reportage diffusé vendredi dernier, spoliation des biens culturels. Juif, une trop lente réparation. En plein bras de fer avec le Hongrois Viktor Orban, la Commission européenne publie son rapport annuel sur l'état de droit dans les 27 États membres. Hier, la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, en charge justement des valeurs et de la transparence dans l'Union, s'était attirée les foudres du dirigeant hongrois parce qu'elle avait qualifié son pays de « démocratie malade ». Ce rapport, le premier du genre, épingle en particulier la Hongrie, mais pas seulement Angélique Boin.
État du système judiciaire, lutte contre la corruption, pluralité des médias, tout est minutieusement détaillé par pays avec le négatif et le positif. Les progrès de Malte, par exemple, en matière d'indépendance des juges ou de la France dans la lutte contre la corruption. Deux domaines dans lesquels la Hongrie, mais aussi la Bulgarie font figure de très mauvais élèves. Le rapport est très défavorable également à la Pologne en raison de ses réformes de la justice. Il alerte aussi sur les pouvoirs spéciaux liés au Covid que se sont octroyés certains États de l'Union. Ce nouvel outil outil doit notamment permettre d'identifier plus tôt les dérives, explique Didier Renders, le commissaire européen à la justice.
Si l'état de droit n'est pas respecté dans l'Union, comment pouvons-nous être crédibles lorsque nous évoquons nos valeurs avec les pays candidats ou avec nos partenaires internationaux? Si l'état de droit est en danger, c'est tout l'édifice communautaire qui est en péril.
Un état des lieux réalisé sur la base d'entretiens menés avec les autorités judiciaires ou policières des États membres, mais aussi avec des ONG, des associations de journalistes ou de la société civile. Rapport qui a agacé certains États membres sous pression avant même sa parution. Hier, la Hongrie et la Pologne ont annoncé la création de leur propre institut pour lutter, disent-ils, contre la répression idéologique libérale de l'Union.
Angélique Bouin à Bruxelles. 16 mois après les élections, la Belgique a enfin un Premier ministre. Alexander De Croo se retrouve à la tête d'une coalition de 7 partis, dont les chrétiens-démocrates flamands. En revanche, les nationalistes majoritaires en Flandre n'en font pas partie, Pierre Benazet.
Le dernier Premier ministre de plein exercice, Charles Michel, a démissionné en décembre 2018 suite à l'éclatement de la coalition gouvernementale avec les nationalistes de l'Alliance néo-flamande, NVA. Depuis, la Belgique a eu d'abord un gouvernement aux affaires courantes, pour lequel Charles Michel a été remplacé par Sophie Wilmès, et ensuite un gouvernement d'union nationale depuis mars pour faire face à la pandémie. Ce sera donc le premier gouvernement belge de plein exercice depuis 22 mois. Il va prêter serment ce jeudi devant le roi Philippe. À bord, 7 partis, les centristes néerlandophones, puis à chaque fois, côté flamand et francophone, les 2 partis, libéraux, socialistes et écologistes. Le nouveau Premier ministre, le flamand Alexander De Croo, a finalement été choisi plutôt que l'autre négociateur, le socialiste francophone, car les 4 partis flamands de la nouvelle coalition sont minoritaires au Parlement. La NVA, groupe le plus important au Parlement fédéral belge, a été en effet reléguée dans l'opposition. Tout comme Charles Michel, Alexander De Croo est fils de politicien et il s'est en particulier illustré pour avoir fait tomber le gouvernement fédéral en 2010, le début de la crise la plus longue de l'histoire politique de la Belgique, avec 541 jours sans gouvernement.
Le Rwandais Félicien Kabuga va être remis à la justice internationale. La Cour de cassation a confirmé la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris. Cet octogénaire, accusé d'être le financier du génocide rwandais, peut être transféré à Arusha et jugé pour génocide et crimes contre l'humanité, Nathanaël Charbonnier.
La France dispose maintenant d'un mois pour remettre Félicien Kabuga au mécanisme pour les tribunaux internationaux qui aura pour mission de le juger. La Cour a en effet estimé que notre justice avait procédé dans les règles, reste que la bataille pourrait se déplacer sur le terrain médical. Car même si la Cour explique dans son arrêté qu'il n'y a pas d'obstacle, la réalité serait tout autre, explique son avocat, Maître Louis Boré.
Monsieur Kabuga est quelqu'un qui a 87 ans, qui est très malade, qui a de multiples pathologies cardiaque, vasculaire, cérébral, et le transférer à 7000 km de Paris, en Tanzanie. Je ne sais pas du tout comment les choses vont pouvoir être faites et je ne sais pas comment son état de santé va être compatible avec un tel transfert et son jugement là-bas. Mais bon.
Du côté du collectif des partis civils qui se bat pour que la justice passe, la nouvelle semble logique et accueillie avec satisfaction, d'autant qu'on ne croit pas aux problèmes de santé évoqués par la défense. Alain Gauthier, son porte-parole.
C'est une bonne nouvelle parce que il n'y a aucune raison que M. Kabuga, même s'il se dit âgé, ce qu'il est malade, c'est à démontrer. Eh bien, c'est normal qu'il rende des comptes à la justice.
Enfin, la bataille judiciaire n'est pas tout à fait terminée puisque Félicien Kabuga envisage de demander à être transféré non pas en Tanzanie, mais à La Haye, aux Pays-Bas, où se trouve également une partie du tribunal international.
Aux États-Unis, Disney annonce devoir se séparer de 28 000 personnes sur le sol américain. Le numéro 1 mondial du divertissement invoque les conséquences de la pandémie de coronavirus sur ses recettes. Il faut dire que le parc de Disneyland en Californie est fermé depuis maintenant plus de 6 mois. Ce sont d'ailleurs les 2 grands parcs d'attractions américains Disney qui payent le plus lourd tribut de ces suppressions de postes, Loïc Glory.
Des portes désespérément closes à Anaheim, près de Los Angeles, et une affluence décevante à Orlando, en Floride. Voilà qui justifie, selon Disney, la suppression de près de 30 000 emplois. Depuis 6 mois, ces travailleurs, à temps partiel pour la plupart, recevaient leur salaire et bénéficiaient de leur assurance santé. Le groupe, aujourd'hui, s'en sépare, invoquant les incertitudes sur la durée de la pandémie, tout en pointant le refus californien de permettre la réouverture de Disneyland. Du côté de la Floride, les attractions la fonctionnent avec avec une jauge réduite, mais le port du masque ou le voyage en avion jusqu'à la péninsule agissent visiblement comme un repoussoir. Résultat, la branche des parcs a vu ses revenus plonger de 85% par rapport à l'an dernier. Les recettes de Disney, plus généralement, ont fondu de moitié entre avril et juin. Le géant du divertissement, pour autant, est loin d'être en difficulté. Il retrouve actuellement des couleurs et le prix de l'action est presque ce qu'il était il y a un an. Aussi déchirant qu'il soit de prendre cette décision, dit pourtant Disney, c'est la seule option viable que nous ayons au regard de l'impact prolongé du Covid-19 sur nos activités.
Loïc Laurie à New York pour France Culture. Et puis on vient d'apprendre le décès de Kino, parfois surnommé le Sempé argentin. C'était notamment le créateur de Mafalda, petite fille brune à la robe rouge qui s'interroge sur la vie, ses absurdités et se révolte contre l'arbitraire. Le dessinateur argentin Kino avait 88 ans. Il pleuvra demain sur la plupart des régions, mais le soleil résistera en Corse. Le vent se renforcera en soirée. Les températures iront de 7 à 14 degrés le matin. Les maximales atteindront 14 à 19 en général, 20 à 25 degrés sur les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.